Les rencontres d'Edmond Morel. Roland Bayenne, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la parution du dernier et dixième volume de la correspondance de Michel de Gelderode, dont le dernier volume est publié aux AML Éditions. Mais avant d'entrer dans ce livre, j'aimerais qu'on parle un peu de vous, parce que vous êtes tout de même une sorte d'énigme dans le monde littéraire belge, ne serait-ce que par vos origines. Vous êtes enfant, votre papa était pêcheur, votre maman tenait une poissonnerie à Nieuport, vous vous êtes insurgé contre l'idée de succéder à l'entreprise de votre père, et vous avez passé 50 ans de votre vie consacrés à la littérature française et 30 ans à la publication de la correspondance de Gelderode. Alors, comment ça s'est passé?
C'est évidemment extrêmement compliqué. C'est une question qu'on me pose souvent. Et c'est la raison pour laquelle je suis maintenant en train d'écrire un petit peu une espèce d'autobiographie critique où je raconte comment un enfant de pêcheur peut ainsi, de pêcheur flamand de Nieuport, peut ainsi devenir professeur d'université en français. Et c'est ce que je suis en train d'écrire maintenant et que j'espère publier. Peut-être cette année-ci, l'année prochaine, sous le titre « Pour en finir avec Gelderode ». Mais je ne me fais évidemment pas d'illusions. Je sens fort bien que c'est en fait un truc de ma part pour pouvoir continuer. Parce qu'en finir avec Gelderode, ça je ne pourrai en fait jamais. J'ai encore une documentation énorme, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais la façon dont j'y suis arrivé, c'est le premier qui m'a posé cette question, c'est Jean-Luc Couterce, que vous connaissez bien. Donc j'étais à la Foire du Livre en 2000, je pense. Je travaillais sur Jacqueline Harpin. J'avais un cours de littérature française de Belgique. J'aimais beaucoup Jacqueline Harpin. J'achète son nouveau livre. C'était son premier qui venait de reparaître, Et je lui demande une petite signature, une petite dédicace. Et Jean-Luc Couterce était à côté d'elle. Et il dit, et le bonjour de Jean-Luc Couterce. Et il me dit, mais Roland, il faudrait quand même qu'un jour tu écrives un livre sur ta passion pour Gelderode. Et j'en ferai la postface. Alors je l'ai promis à ce moment-là. Mais cette correspondance m'a pris tant de temps que j'ai commencé plusieurs fois, mais j'ai abandonné, mais maintenant j'y suis.
Je remarque d'ailleurs qu'on revient toujours à Gelderode, alors que ma question portait sur votre enfance.
C'est ça.
Alors, comment se passait votre enfance?
C'était ça la question de Outerse. Comment un enfant de pêcheur flamand, je raconte maintenant dans le livre que j'espère publier, dont j'ai déjà publié une espèce d'extrait sur internet, parce que l'Académie Jacques de Decker en avril m'avait demandé un making of de mes 10 volumes, je n'avais rien. Ça n'a pas paru en avril, finalement. Le dernier tome et l'index n'ont paru qu'en novembre de cette année-ci, je raconte, je remonte jusqu'à mes 3 ans. Donc, je suis né à Nieuport, Nieuportville, ici. Pas Nieuport-Bain, mais Nieuport-Ville, dans la rue du Bateau, c'était Schepstraat à l'époque, les plaques étaient encore bilingues. Alors, dans une rue vraiment de pêcheurs, d'une famille dans laquelle il n'y avait avant moi eu que des pêcheurs. Mon père était déjà
Fils de pêcheur.
Fils de pêcheur et allait déjà en mer à 14 ans et demi. Hein. J'ai toutes les preuves, j'ai des photos, j'ai ce fameux bateau de son père. Son père était de la panne et avait d'abord ce qu'on appelle un panne-pot. Hein. Donc un bateau pratiquement sans quille qui pouvait donc se poser, atterrir
sur le sable.
Et attendre la remonte donc, de l'eau pour repartir. Hein. Mais il a été un des premiers donc, à acheter un bateau beaucoup plus grand qui ne pouvait plus aller à la panne, mais qui venait à Nieuport. Bon, c'est là qu'il a fait la connaissance de ma mère, qui était la fille, 14e enfant, d'un pêcheur d'Islande. Bon, ils se sont rencontrés, ils se sont mariés, etc. Après la guerre, donc, hein, lorsque j'avais 11 ans, nous avons quitté Nieuport-Ville pour Nieuport-Bain, où ma mère a ouvert une poissonnerie, mais moi, j'étais très heureux déjà en première primaire, et j'avais déjà à cette époque-là le besoin d'étudier. Disons que j'étais premier de classe, etc. Hein, donc c'est ce qui. Mais mon père n'aimait pas beaucoup ça, donc il voulait absolument que je devienne pêcheur. Hein. Alors il a tout fait pour me donner une éducation extrêmement dure. Donc je donne beaucoup d'exemples, etc., dans le petit livre là que je vais faire.
Et dont on peut lire d'ailleurs sur la communication à l'académie.
petit résumé, quoi, hein, mais qui sera beaucoup plus détaillé, j'espère, si j'ai la santé, etc., et la force de continuer. Hein. Donc, alors, pour vous donner un exemple, donc, lorsque j'étais au collège d'Ostende, donc après le collège de Nieuport, j'ai été au collège d'Ostende. Mon père est venu me chercher. Mon frère Daniel allait en mer avec lui. Hein, et à un moment donné, il n'était plus que deux. Donc, alors qu'il fallait être trois sur son bateau, il voulait absolument que moi je les accompagne. Sinon, il allait faire faillite. Alors, il a crié, il a pleuré, il a menacé. Il a supplié, etc. Et moi, j'ai dit non. Je reste au collège, je veux absolument étudier. Je ne pensais pas à cette époque-là. Je pensais faire les germaniques. Hein? Donc, et je voulais même travailler sur le langage des pêcheurs. Ah, okay. Donc, le dialecte. Ah, oui. Hein? Donc, je ne parlais à cette époque-là que le néerlandais, hein? Pour ne pas dire le flamand. Parce que le néerlandais, mes professeurs, même en Ostende, parlaient surtout le dialecte. Le dialecte ostendais, nieuportois, etc. Ce qui m'intéressait, c'était la langue des pêcheurs. Mais, donc, en rhétorique, donc, à un moment donné, tout à fait à la fin de l'année, il fallait donc dire devant tout le monde ce qu'on allait faire. Et le soir, avant cette communication, alors moi, j'ai eu une espèce de scrupule, comme beaucoup de jeunes à cette époque-là, je me demandais si je ne devais quand même pas devenir prêtre, etc. Alors j'ai été voir mon professeur de poésie, qui pour le reste j'admirais beaucoup. Alors il me disait, si vous n'essayez pas au moins de devenir prêtre, vous ne serez jamais heureux dans le mariage, etc. Bon, alors moi je décide, au grand étonnement de tous mes camarades, d'aller au séminaire. Je vais donc de devenir prêtre. Puis j'ai choisi le séminaire de Bruges, et bon, j'ai fait un an à Bruges où je ne suis pas très heureux, où nous avons des examens difficiles et où je suis toujours aussi premier. Et de sorte qu'à la fin d'année, l'évêque m'appelle et me dit, comme vous êtes toujours premier, on va vous envoyer à Louvain pour la philosophie. Alors j'ai dit, ce n'était pas l'évêque, c'était l'évêque auxiliaire, le président du séminaire. Alors je lui dis, je vais être honnête, je doute de ma vocation. Je ne serai pas resté à Bruges. Alors il dit, mais enfin, bon, à Louvain, ce sera tout différent. Ce sont des gens beaucoup plus intéressants. Mais, alors dans ce cas-là, nous n'allons pas vous envoyer faire la philosophie, mais faites la romane, parce que des philosophes, nous en avons assez, mais nous n'avons pas du tout de romanistes. Allez, à cette époque-là, ça n'existait pas, hein, un romaniste flamand. Personne ne faisait ce genre d'études. Alors moi, j'avais lu des livres français, quoi.
Et là, on est à quelle époque, dans le fond?
On est en 53. 53. D'accord. Donc, je suis parti à Louvain en 54. Mm-hmm. J'ai été en Romane, mais j'ai quitté les séminaires au bout de 3 mois. Dès que j'ai vu les filles à Louvain, ouais, etc., ce qu'à l'époque, on ne voyait jamais, ouais, avant, hein. On ne se rend pas compte de la façon
tandis
dont...
Tandis que là, vous étiez dans des cours mixtes.
Tout de suite, et donc,
là,
dans les cours mixtes.
On peut découvrir la langue française et les jeunes filles.
Cours mixtes, jeunes filles, garçons, et en même temps, francophones et flamands étaient encore mêlés. Hein. Ouais. Alors, bon, je n'aimais pas tellement ces études de romane, sauf un professeur qui était brillant, Hans, hein, Joseph Hans.
Et qui vous remarque, hein.
Qui me remarque assez rapidement, qui pour commencer est un des seuls qui s'occupe, qui a pitié de ces quelques flamands, hein, et qui nous donne par semaine une leçon de français. C'était aussi une façon pour lui de nous faire acheter son dictionnaire.
Oui, rappelons que son dictionnaire, dont la première édition est de 1949, je crois,
c'est, ça, hein,
c'est le dictionnaire des difficultés de la grammatical. Langue grammaticale en français. Donc c'est un instrument idéal pour quelqu'un comme vous.
Dont je me sers encore maintenant. Ouais. Mais c'est un instrument dans lequel... Donc moi, je ne savais pas du tout le français. Hein. Donc j'ai appris le français très rapidement, donc en parlant avec les francophones, et aussi en étudiant tous les jours une dizaine de pages dans le dictionnaire de Hans. Hein. Ah, okay. Donc j'avais de très bonnes mémoires à cette époque-là, et de sorte que, bon, à la fin de l'année, ce que je dois dire, donc, c'est qu'au bout de 3 mois, j'ai quitté les séminaires. J'étais, évidemment, mon père était furieux, je n'avais pas d'argent, j'avais...
une bourse.
Je n'avais pas encore bourse.
Pas encore.
Non. Donc, j'ai été dire au séminaire donc, que je le quittais. Ils savaient que je n'avais pas d'argent, mais j'avais été de porte en porte pour mendier pour les vocations tardives. J'avais 10 000 francs belges. Hein, 10 000 francs. Et le président du séminaire dit, gardez ces 10 000 francs. Avec ces 10 000 francs, vous allez atteindre la fin de l'année. Si vous avez une distinction en première session, ce qui était nécessaire à l'époque, vous aurez une bourse. Bon, j'ai eu 3 bourses, mais c'était ma mère qui allait les chercher, et ma mère les mettait en poche, et je ne recevais pas un sou. Hein.
Ça, c'est assez fou. Donc, finalement, ce sont les 10 000 francs les seuls que vous ayez eus de toutes ces bourses. Parce que les bourses, votre maman allait à la poste ou, je ne sais, la banque chercher l'argent.
C'est ça.
Et vous ne l'aviez
pas. Mais c'était ma maman qui devait signer,
c'était
etc.
C'était dur encore. Hein.
Oui. Donc, j'ai fait toutes mes études en travaillant encore. Hein. Donc, j'ai travaillé au restaurant universitaire, j'ai donné des leçons particulières, j'ai tout fait, quoi. Hein. Mm-hmm. Heureusement, à partir de la première licence, j'ai pu faire un intérim dans un collège de Louvain qui était relativement bien payé. Hein.
Mais alors, vous n'en vouliez pas à vos parents d'être aussi durs avec vous et de, finalement, parce que vous réussissiez bien,
oui,
donc ils auraient quand même pu changer d'avis à votre propos et se dire, tiens,
non,
mais dans le fond...
Ils n'ont changé d'avis que beaucoup plus tard. Hein. Ouais. Comme j'avais fait des études relativement brillantes, hein, donc plus grande distinction, etc., M. Hans m'avait conseillé de faire une thèse de doctorat. Alors bon, cette thèse de doctorat, c'était Michel de Gelderode ou la hantise du masque.
Ah, c'était pas Image de la Flandre, oui, dans la littérature française.
Non, c'est ça.
Ah, c'est-à-dire, au départ, c'était ça. Hein.
Mon mémoire de licence était Image de la Flandre. L'image de la Flandre dans les lettres françaises, donc, hein, tout court. Puis finalement, comme mémoire, j'ai dû me limiter à la campagne. Et alors, bon, avec ce mémoire, j'ai eu la plus grande distinction. On se me dit, maintenant, il faudrait faire une thèse doctorat, maintenant, sur toute la Flandre, dans toute la littérature française, etc. Bon, j'ai commencé. Entre-temps, je me suis marié. J'ai commencé, mais ça ne me plaisait pas. Jusqu'au jour où j'entends à la radio que Michel de Guédard, bon.
Et là, on est en 1962, en avril 62.
Le 1er avril. Et j'enseignais à ce moment-là à Saint-Thomas. J'étais professeur dans une école de régent, à Saint-Thomas, près de la gare du Midi à Bruxelles. Alors, on habitait à Bruxelles. En rentrant, donc, le 2, je pense, le lendemain, je vois chez un bouquiniste un paquet de livres originaux de Guédard, j'achète tout pour deux fois rien, quoi. Hein. Je commence à lire, je suis vraiment... C'est le coup de foudre. Je dis, voilà le sujet que je cherchais. Alors j'ai été voir M. Hans, qui appréciait beaucoup Guédard, qui alors a écrit une lettre à Mme de Guédard pour qu'elle me reçoive, ce qu'elle a fait. Alors, bon, j'ai beaucoup travaillé chez Mme de Guédard au début, mais au bout d'un certain temps, elle m'a plus ou moins flanqué à la porte.
Avant cela, elle aimait beaucoup vous recevoir, parce que finalement, c'était une femme un peu seule et esselée. Un jeune homme qui s'intéresse aux travaux de son mari était quand même...
C'est ça. Elle était vraiment... j'ai beaucoup fait pour elle aussi. C'était son chauffeur, son... Tous les soirs, j'allais travailler chez elle. Souvent, je n'arrivais chez elle qu'à 10 heures du soir, parce que j'avais des cours à préparer, etc. Et elle bavardait beaucoup. Je ne pouvais... Elle mettait à ma disposition à peu près toutes les archives qu'elle avait et auxquelles personne n'avait touché. J'étais vraiment le premier à voir tout ça.
Donc vous étiez alors dans cette maison de Guédard avec son bureau, avec tous ses objets.
Il y avait tous les livres, il y avait les objets, évidemment, un peu effrayants, évidemment, pour un tout jeune. Mais le soir, donc, après avoir bavardé pendant une heure, etc., elle s'endormait généralement.